Thank you, Madame Chairperson.
Merci, Madame la Présidente. Bonjour, c'est déjà l'après-midi à Hong Kong. Voilà, bon après-midi à Hong Kong, aujourd'hui à Hong Kong. Bonjour à ceux qui sont dans cette salle. Aujourd'hui, je vais me pencher sur les points 15 et 16. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de poser une question de suivi, fort de la réponse que la délégation m'a fournie hier. J'aimerais remercier la délégation d'avoir répondu à la question concernant les tenants et les aboutissants de l'article 43 de la NSL. D'après donc les principes de mise en œuvre de cette loi sur la sécurité nationale, sont entourés de toutes les garanties procédurales, ce qui est en toute conformité avec les normes internationales. Toutefois, comme je l'ai signalé hier, les règles de mise en œuvre peuvent être mises en œuvre sans un mandat émis par un juge. Il est donc possible de mettre des lignes téléphoniques sur écoute, de confisquer des actifs et de censurer des discours qui seraient donc publiés sur Internet. Et d'après nos informations, la police a d'ores et déjà agi de la sorte de façon tout à fait arbitraire, et ce pour restreindre la liberté d'expression et sanctionner la liberté de mouvement, en tout cas la limiter. Alors, avez-vous pris des mesures pour éviter que la police n'agisse de la sorte, en vertu donc de l'application des principes de mise en œuvre? Comment est-ce que les garanties auxquelles vous faisiez allusion hier sont garanties, justement, et pas uniquement dans la pratique, uniquement dans la théorie, pardon, mais aussi dans la pratique? J'en viens maintenant au point 15 qui porte sur la traite des personnes. En réponse à nos questions, vous avez précisé que le gouvernement de Hong Kong Chine s'était doté de tout un arsenal de mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment, et vous le dites dans vos réponses, en ayant recensé quelques 20 000 victimes entre 2017 et 2019. Alors, pour ce qui est justement de l'identification, voici mes questions. Quelle est la définition de victime? Comment peuvent-elles bénéficier donc de ces mesures de identification? La charte des droits interdit l'esclavage, la servitude pour dette ou le travail forcé, mais n'interdit pas exclusivement la traite des personnes à des fins d'exploitation. La Chine est partie au protocole de Palerme qui réprime et sanctionne la traite des personnes. Toutefois, ce protocole ne s'applique pas à Hong Kong. Pourriez-vous donc préciser si la définition de la traite telle que prévue par le protocole de Palerme a été transposée à toutes les législations pertinentes à Hong Kong et sont-elles bel et bien suivies des faits dans la pratique? Vous nous dites que entre 2017 et 2019, suite aux personnes que vous avez identifiées comme étant, seules 30 ont été donc considérées comme des victimes, et vous avez même été jusqu'à dire que la traite n'avait jamais été un énorme problème à Hong Kong. Toutefois, le fait qu'il y ait très peu de victimes selon vous ne veut pas dire pour autant que cela reflète la réalité. En effet, le nombre de victimes dépend justement de la façon dont on définit la traite et dont on la poursuit. Ce qui m'amène à poser ma seconde question. Dans votre rapport, vous précisez que la police et le département de l'immigration ont mis sur pied un mécanisme sophistiqué d'identification et de recensement des victimes, et ce depuis 2016. Ce mécanisme permet à des agents de procéder à des examens en deux étapes auprès des personnes en fait qui viennent elles-mêmes se présenter aux autorités. Alors, comment est-ce que cela fonctionne et comment arrivez-vous à établir clairement qu'il s'agit de victimes ou pas? Qu'en est-il des mesures que vous avez prises pour donner effet à ce mécanisme d'identification? Est-ce qu'il vous a permis d'être certain que les personnes auxquelles vous aviez affaire étaient bel et bien des victimes? J'en viens maintenant au point 16 qui porte sur la protection des travailleurs migrants. Dans vos réponses, l'ordonnance sur l'amendement de l'emploi, qui date de 2018, prévoit les plus lourdes peines pour toutes les entreprises qui ne respecteraient pas les règles, qui ont recours à des travailleurs domestiques illégalement. Or, entre juillet 2010 et juillet 2017, vous auriez recensé uniquement 119 contrevenants. Qu'en est-il des infractions commises par les bureaux d'emploi? Y a-t-il eu enquête, poursuite, condamnation? Quelles ont été les peines encourues? Et qu'est-il advenu des travailleurs migrants domestiques? Dans nos observations finales précédentes, nous avions recommandé à Hong Kong Chine d'abroger ce que vous appelez la règle des 2 semaines, qui prévoit que les travailleurs migrants domestiques doivent trouver un nouvel emploi ou quitter Hong Kong 2 semaines après le terme de leur contrat. Le problème avec cette réglementation, c'est que, en fait, cela pourrait décourager les travailleurs domestiques de dénoncer un contrat illégal, et ce par crainte de perdre leur emploi et donc de devoir quitter le territoire. Dans ce contexte, il est donc essentiel de protéger ces personnes, même si elles dénoncent leur employeur, et ce afin de leur permettre de rester sur le territoire et de trouver un autre emploi en tant que travailleur domestique. D'après un rapport, le département de l'immigration peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, demander aux travailleurs migrants domestiques de s'adresser à un autre employeur, et ce parce qu'ils auraient été abusés ou violentés par celui-ci. D'après un rapport de 2019, pour 6278 personnes, vous leur avez permis donc changer d'employeur, mais pas uniquement parce qu'il y avait eu des abus et des violations, mais aussi parce que l'employeur donc avait déménagé ou qu'il était décédé, donc pour d'autres raisons. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de demandes de changement d'employeur ont été faites et combien ont-elles été acceptées, entérinées, et ce uniquement dans des cas d'abus ou d'exploitation. Est-ce que pour vous, le fait d'entériner ces demandes va devenir une règle, et est-ce que cela permettrait d'abroger le système des 2 semaines, justement? Si par exemple un travailleur domestique dénonce un cas d'exploitation et doit changer d'employeur avant même que son contrat n'arrive à échéance. Voilà, j'en ai terminé. J'attends avec intérêt vos réponses.